Le père Sestac, pèlerin. Voici une conférence de sœur Jacqueline Bordenave, servante de Marie, conférence enregistrée le 20 août 2005 à la fête de Saint-Bernard au couvent des Bernardines à Anglette. Le père Sestac, pèlerin, sœur Jacqueline Bordenave.
Louis-Édouard fait son premier pèlerinage, tout jeune, dans les bras de sa maman. Âgé de 3 ans, il était atteint d'un mal incurable. Madame Sestac, tout éplorée, mais sûrement pleine de confiance, courut de Bayonne jusqu'au Boucau, porter l'enfant au pied d'une antique statue de la Vierge, aussi renommée que vénérée pour ses nombreux miracles. Cette image, cette statue, qui se trouvait dans les ruines du monastère des Bernardines, incendié par les révolutionnaires, était l'objet d'une grande dévotion populaire au début du XIXe siècle, surtout de la part des marins à la veille de leur embarquement. Cette statue existe encore, elle se trouve actuellement à l'église Saint-Étienne de Bayonne. Mais elle est bien plus ancienne que l'église de Saint-Étienne. Louis-Édouard y fut guéri instantanément. Il en gardera toujours une vive reconnaissance. Quelques 60 ans plus tard, il écrira « Je fus guéri miraculeusement et depuis lors, chaque année, j'ai la consolation, comme je l'ai encore autant que je le puis, d'aller dans la neuvaine de Saint-Bernard, vous témoigner ô ma bonne mère et aussi à ce grand saint toute ma reconnaissance. » En souvenir de cette guérison, sûrement, le père Sestac appellera Saint-Bernard les sables d'ici quand il en deviendra propriétaire en 1846. Et aux pieuses solitaires à qui il accordera d'y vivre dans quelques cabanes de paille, il donnera le nom de Bernardine. Alors, père Sestac devenu adulte. Les sanctuaires visités par le père Sestac sont très nombreux. Nous allons voir un peu les sanctuaires qu'il a visités au cours de ses déplacements. Et ils furent nombreux. Il ne manque pas de visiter les sanctuaires dédiés à Marie, mais aussi les sanctuaires dédiés aux saints. Nous allons évoquer, si vous voulez bien, la géographie de ces pèlerinages. En juillet 1839, nous le trouvons en Loire-Atlantique, au pied de Notre-Dame de Meilleray. La Meilleray est une abbaye cistercienne. Que fait-il là? Il est venu pour une retraite, mais aussi pour voir les nouvelles méthodes d'agriculture que les moines revenus d'Angleterre appliquent avec succès. C'est de là qu'il écrit à ses premières collaboratrices, les futures servantes de Marie, une longue lettre qui sera leur première charte de vie. Sans donner plus de détails sur ce pèlerinage, il confie cependant « Ce séjour me fut utile. Il me fut une précieuse grâce. » De la Meilleray, dans de la Loire-Atlantique, l'abbé Sestac se rend à Paris. Au petit hôtel où il descend, il rencontre quelques prêtres. Voilà quelques rencontres. Bientôt, ils viennent à parler ensemble de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires. Expliquons un peu, en essayant de nous reporter à cette date-là, 1839. Désolé de l'indifférence de sa paroisse, le curé de Notre-Dame des Victoires, Monsieur Desgenettes, eut l'inspiration, en décembre 1836, de la consacrer au très saint et immaculé cœur de Marie. Il crée une confrérie qui serait bientôt élevée au rang d'archiconfrérie sous le nom d'archiconfrérie pour la conversion des pécheurs. Cette pieuse association connut très vite un grand essor et une grande renommée. Alors, rien d'étonnant que l'abbé Sestac et ses interlocuteurs, ces prêtres qu'il a rencontrés, parlent de Notre-Dame des Victoires. Et même, ils conviennent d'aller le lendemain à l'église de Notre-Dame des Victoires. Dans le récit que le père Sestac nous a laissé, nous sentons encore son émotion. M'étant présenté, dit-il, devant le sacristain, pour demander à dire la messe à l'autel privilégié, le sacristain me répondit un peu sèchement que non, attendu que l'heure était passée. Je gardai le silence, mais une voix qui partait d'un coin que je n'apercevais pas demanda d'un ton bref et impératif « Qu'est-ce là ? Qu'y a-t-il ?» Je me retourne et j'aperçois, assis sur un fauteuil d'infirme, un prêtre vénérable, c'était monsieur le curé, donc monsieur Desgenettes. Je lui répondis, « Monsieur le curé, j'aurais bien désiré dire la Sainte Messe devant l'image miraculeuse, mais on m'a dit que ce serait trop tard. »« Non, non, répondit-il, ce ne sera pas trop tard, et vous la direz. » Et le père Sestac de conclure, « Oh, que ma joie fut grande, et avec quelle effusion je remerciai le bon et saint curé. » En mai 1958, il va à Notre-Dame de Garaison, ça c'est plus proche de nous. Ce sanctuaire, situé près de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, est proche d'un petit village cher au cœur du père Sestac, Sarriac, car c'est le village natal de son père. Il vient y remercier la Madone d'une protection miraculeuse qui sauva son père lorsque celui-ci était jeune mousse. Le père Sestac a raconté les circonstances de ce miracle. Écoutons-le. Le bâtiment sur lequel naviguait mon père était dans les grandes mers lorsqu'on s'aperçut d'une voie d'eau. Malgré les pompes, le capitaine et l'équipage se résignèrent à mourir et tous eurent recours à la prière. Mon père, en particulier, chanta les litanies et fit vœu d'aller à Notre-Dame de Garaison s'il échappait à la mort et de monter à genoux la côte qui s'y rencontre pour aller au sanctuaire en venant de Sarriac. C'était demander un miracle et le miracle eut lieu. Le navire échoua dans un banc de roches qui avoisine les îles des Açores. et le fils d'ajouter, dans une lettre de 1858, « Ce vœu, mon père l'a accompli, mais je sentais dans mon cœur que j'avais à remercier moi-même notre divine mère de cette première bonté qui a été le principe de tant d'autres. » À sa correspondante, le père Sestac parle d'une rencontre faite à Garaison. Il parle d'un père qui lui a fait l'accueil le plus cordial et le plus généreux. Début novembre 1859, le père Sestac est à Lyon. Il est à Lyon avec les sœurs qui l'accompagnent à Sobrenas dans l'Ain. C'est une des premières fondations des servantes de Marie dans le département de l'Ain. Et il écrit « Nous voici à Lyon. Aujourd'hui, dimanche, notre bonne mère, ça c'est par le ainsi de la Vierge Marie, notre bonne mère nous invite à aller l'honorer dans un de ses plus célèbres sanctuaires, Notre-Dame de Fourvière. Et elle a permis que l'autel où on nous a conduits ne fût qu'à quelques pas, pour ainsi dire, de ce lieu tant et si justement vénéré. » Donc, le voilà au pied de Notre-Dame de Fourvière. Dans sa lettre, il précise ses intentions. « Nous allons y porter, dans notre cœur, vous, il écrit à une sœur, ici, de Notre-Dame, vous et toute la communauté, et nous demanderons pour tous un accroissement d'amour et de fidélité. » Là encore, il est sensible aux rencontres, puisqu'il les note dans sa lettre. « Pour ma part, écrit-il, j'ai été parfaitement accueilli par tous les prêtres du sanctuaire et surtout par les révérends pères jésuites qui, après la Sainte Messe, sont venus me chercher et m'ont amené déjeuner avec eux. Notons, sans nous y arrêter, que sa correspondance montre le père Sestac au pied de Notre-Dame de Talence en novembre 1859. Bon, au retour d'un de ses périples, il stationne à Bordeaux et le train ayant du retard, eh bien, il va pousser un pèlerinage à Notre-Dame de Talence. En juin 1862, il écrit qu'il ira à Notre-Dame de Mazerey. Ça, pour nous, c'est pas très connu. Notre-Dame de Mazerey, en Charente-Maritime, à l'occasion de l'installation des sœurs dans le coin. Alors, vous voyez, tous les pèlerinages, au moins, à des sanctuaires mariales que le père Sestac nous dit avoir été. Peut-être qu'il y en a-t-il d'autres que je n'ai pas découverts. Si les sanctuaires de Marie ont sa préférence, le père Sestac visite aussi les lieux dédiés aux saints. Nous avons déjà vu, tout à fait au début, qu'il ne manque pas dans la neuvaine de Saint-Bernard, donc dans quelque chose comme dans cette hauteur d'année, comme nous sommes aujourd'hui jour de Saint-Bernard, eh bien, il ne manque pas d'aller à Saint-Bernard du Boucau, en souvenir de son premier pèlerinage. En août 1859, une circonstance providentielle lui permet d'aller honorer la bienheureuse Germaine de Pibrac. À l'époque, elle n'était que bienheureuse. Maintenant, nous l'honorons comme Sainte Germaine de Pibrac. Écoutons-le. C'est intéressant parce qu'on voit comme ça, au passage, les contacts qu'il a. « Hier, dit-il, j'ai visité la communauté des filles de la Croix à Colomiers. Monsieur l'aumônier partait pour Pibrac, où se trouve le grand pèlerinage de la bienheureuse Germaine. J'y suis allée avec lui, avec une grande joie. Non, sûrement que l'aumônier a dû l'inviter et, mon Dieu, il l'a suivi. Quelques précisions sur sainte Germaine de Pibrac, bienheureuse à l'époque. Germaine Cousin, jeune bergère, a vécu à Pibrac à la fin du XVIe siècle. Non, ça remonte loin. Mais son corps a été retrouvé intact en 1644 dans l'église de Pibrac, tout à fait incidemment. Et à la suite de miracles éclatants, son renom de sainteté a fait de Pibrac un lieu de pèlerinage. Germaine a été béatifiée en 1854, donc 5 ans avant le pèlerinage du Père Sestac. Mais revenons au Père Sestac. Dans sa lettre, il poursuit. J'ai donc eu le bonheur de me prosterner devant la sainte relique de cette âme privilégiée qui fut si humble, si cachée pendant sa vie et qui a été si grandement glorifiée après sa mort. Dans ce petit pèlerinage, le Père Sestac reçoit une grâce de lumière assez notable pour qu'il en fasse part à sa correspondante. « J'ai eu, dit-il, une vue particulière de cette vérité si simple et si évidente, savoir, il faut que nous fassions nos œuvres pour le service de la très sainte Vierge et pour Dieu seul. Si Dieu veut qu'elle soit connue, la très sainte Vierge saura le manifester, sans que nous devions nous en occuper. » Voilà au passage une petite leçon. Alors voilà un peu les sanctuaires, je dirais un peu répandus dans la France. Alors regardons maintenant les sanctuaires locaux, ceux qui sont plus proches de nous, plus proches d'Anglette. Et nous voyons Notre-Dame de Bétharram, Notre-Dame de Sarens, Notre-Dame de Lourdes et surtout Notre-Dame de Buglos. Tous ces sanctuaires vont recevoir fréquemment la visite du Père Sestac. Et encore, je ne peux pas dire combien de fois. Pour Notre-Dame de Bétharram, notons simplement que c'est au pied de Notre-Dame de Bétharram qu'il va se recueillir en décembre 1841 pour rédiger les premières constitutions des servantes de Marie, comme le lui a demandé l'évêque de Bayonne. Non, il est allé à Bétharram pour rédiger ce texte. Précisons au passage qu'en 1841, la statue de Notre-Dame de Bétharram n'est pas la statue blanche que nous connaissons. Cette statue blanche est de 1854. Mais il y avait un pèlerinage à Notre-Dame de Bétharram et une statue beaucoup plus ancienne. Après Bétharram, Sarens. Le sanctuaire de Sarens voit le Père Sestac presque chaque année. Au cours du mois de mai, puisque c'était l'époque où où le diocèse de Bayonne faisait son pèlerinage à Notre-Dame de Sarens. Le 14 mai 1847, il écrit « Priez Notre-Dame de Sarens qu'elle m'obtienne la grâce de faire saintement mon pèlerinage, que ma visite lui soit agréable, qu'elle procure la gloire de son Fils et serve au salut des âmes qui nous sont confiés. En mai 1865, il confiera à une religieuse. C'est là, à Notre-Dame de Sarens, que j'ai reçu une importante communication sur le développement et l'extension de l'œuvre alors qu'elle était renfermée dans d'étroites limites. Oh, certes, nous aimerions savoir un peu ce qu'était cette importante communication. Mais comme toujours, le père Sestac reste très discret. Il ne nous dit pas même à quelle époque il a eu cette importante communication. On peut supposer que quand l'œuvre était encore entre Anglet et Bayonne, et que peut-être il pensait à l'extension de l'œuvre. Notre-Dame de Lourdes. À la nouvelle de l'apparition à la grotte de Massabielle, le père Sestac se montre d'abord très réservé. C'était un ecclésiastique, donc il attend que l'Église se soit prononcée. Cependant, avant le mandement de Monseigneur Laurence, autorisant le culte de Notre-Dame de Lourdes en janvier 1862, eh bien le père Sestac est témoin d'un miracle de l'eau de la grotte. Il a raconté le fait dans une circulaire aux sœurs le 15 décembre 1860, donc un an avant l'autorisation d'aller à la grotte. Alors, une pénitente, c'était ces jeunes que le père Sestac avait accueillis à Notre-Dame du Refuge, une pénitente, Marie-Baptiste, ne pouvant plus assurer les dessins de broderie à cause de sa vue, devenue douloureuse et déficiente, demande un travail à la ferme. Écoutons la suite par le père Sestac. M'étant rappelé que nous avions de l'eau de la grotte de Lourdes. Tiens, dans la communauté, il y avait de l'eau de la grotte de Lourdes. Je lui donnai de cette eau et lui recommandai d'en mettre sur ses yeux. Elle le fit. Et au bout d'une demi-heure, quel ne fut pas mon étonnement en voyant Marie-Baptiste travaillant avec la plus grande facilité aux dessins les plus minutieux. Et il ajoute, depuis lors, elle continue. Donc le miracle n'a pas été que d'un seul moment. Vous ne trouverez pas ce miracle dans les récits des miracles de l'eau de Lourdes. On a retenu sa présence à la grotte de Lourdes le 18 juin 1863. Peut-être y a-t-il été d'autres fois, mais nous n'en savons rien. Il faut savoir qu'il y avait autour de Lourdes des lieux où nous trouvions des communautés de servantes de Marie, Barzun en particulier, Baudrex. Donc ça, c'est quand même assez proche de Lourdes, pour que de là, peut-être a-t-il été jusqu'à Lourdes. Mais enfin, il ne nous l'a pas dit. De tous les hauts lieux de dévotion mariale, le plus fréquenté par le père Sestac est sans conteste le sanctuaire de Notre-Dame de Buglos. Il ne peut oublier son premier pèlerinage le 19 juillet 1838. Alors nous allons maintenant un peu nous attarder sur cet inoubliable pèlerinage de Buglos. Pourquoi fait-il ce pèlerinage? Dans une lettre, une douzaine d'années plus tard, le père Sestac, écrivant à l'évêque d'Aire, se souvient. Au commencement des œuvres que la très sainte Mère de Dieu a daigné me confier, me trouvant dans des peines extrêmes, des embarras humainement insurmontable. Je me sentis inspirée d'aller consulter la Très Sainte Vierge dans son sanctuaire vénéré de Buglos. Quelle était donc sa situation en ce 19 juillet 1838, pour qu'il s'exprime ainsi? Eh bien, il était vicaire à la cathédrale de Bayonne et il avait à sa charge à cette époque-là une trentaine d'orphelines dans la maison dite Grand Paradis. De plus, depuis plusieurs mois, depuis septembre 1837, il a logé au grenier de cette maison d'abord deux, puis plusieurs autres jeunes filles fuyant la prostitution. Et cet accueil a fait exploser mécontentement, critique, indignation dans la bonne ville de Bayonne. Et l'abbé est acculé à trouver une solution et l'évêque le lui a demandé. Il ne pouvait pas laisser dans la même maison les orphelines et ces jeunes pénitentes. Il fallait trouver une solution. Mais comment fonder un refuge pour ces jeunes repentis quand on n'a pas de ressources? Quand déjà le pain quotidien pour toutes, enfants, jeunes, collaboratrices bénévoles, le pain quotidien est une terrible question et une terrible responsabilité. Quand le mécontentement ferme les bourses et les mains de la charité publique, alors que faire? C'est dans cette situation pénible et parfois angoissante que l'abbé Sestac reçoit comme une inspiration d'aller au sanctuaire de Buglos, comme une invitation de Marie. Écoutons-le. Obéissant à cette maternelle inspiration, je me mis en route. Ô ma bonne et tendre mère, c'était une somme de 50 000 francs que je voulais vous demander pour la fondation d'un refuge. Car déjà, j'avais compris que je ne devais pas m'adresser aux hommes, ni leur rien demander, mais que c'était à vous que je devais adresser mes prières. Donc voilà, il va à Buglos pour demander à la Vierge 50 000 francs. Ce n'est pas une paille. Alors écoutons un peu ce qu'il nous donne comme relecture de ce pèlerinage. Nous allons lui emprunter quelques passages. Depuis Dax, en vrai pèlerin, le bréviaire sous le bras, le chapelet à la main, je me mis en route pour arriver d'abord au chêne vénérable qui abrita l'enfance de Saint Vincent de Paul. Donc, il fait une première halte au berceau de Saint Vincent de Paul. Arrivé au pied de là, du chêne, je me jetai à genoux. J'y restai longtemps en prière. Et je demandai à ce grand saint de vouloir bien m'accompagner jusqu'au sanctuaire et d'appuyer ma requête. Alors il me sembla, dit-il, que ce grand saint avait exaucé ma prière et qu'il était disposé à m'accompagner. Et le récit continue, et j'attire votre attention, voilà ce qu'il dit. Nous partîmes. J'avais le cœur un peu ému, mais joyeux. Je priais, je chantais dans ce chemin sablonneux et solitaire. Enfin, nous arrivâmes près de la chapelle. Donc, il n'était pas tout seul. Il se sentait accompagné de Saint Vincent de Paul. De cette évocation, nous aurons pu noter la place que le Père Sestac fait à la prière. Il prie devant le chêne, il prie en chemin, même s'il ne dit pas chaque fois « je prie », mais le bréviaire, le chapelet sont autant d'indices de sa prière. Et puis, nous avons noté la rencontre de Saint Vincent de Paul et sa présence fraternelle, puisqu'il dit qu'ils partent ensemble. Et le voici donc arrivé. Mais avant de formuler sa demande, l'abbé veut encore s'assurer de la bienveillance des saints honorés dans la chapelle. Ça, c'est pour lui une habitude, hein, de voir dans une église les saints qui sont honorés dans cette église et de prendre les saints comme des intermédiaires. Alors il va, d'un côté, c'est Saint Vincent de Paul, tiens. Son concours lui est déjà acquis, donc il n'y revient pas. Et l'autre, de l'autre côté, c'est Sainte Marie-Madeleine, la pénitente. Et pour l'abbé, c'est un signe fort. Et dès lors, il voit sa cause gagnée auprès de la Madone. Alors, quelle sera la réponse de Marie? Et laissons le Père Sestac faire mémoire de cet instant. Il écrit, en s'adressant à Marie, « Je me présentais à vos pieds avec une grande et entière confiance. Je vous renouvelais tous mes sentiments d'offrande, de dévouement, de sacrifice et enfin, j'allais vous demander les 50 000 francs. Lorsque vous me fermâtes la bouche, et vous me fit entendre cette parole, si digne de vous et de votre grandeur, ne me demande que mon esprit. » Cette parole est comme un trait de lumière qui saisit l'abbé et l'arrête. Désormais, il sait que Marie prend en main l'œuvre qu'il a commencée. Il n'a plus à se préoccuper. L'œuvre n'est pas sienne. Il est seulement au service de l'œuvre de Marie. Ainsi, Marie fait entrer son serviteur dans la radicalité évangélique du royaume. C'est comme un écho de la parole de Jésus à Marthe. Tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. La grâce de Buglose est, pour l'abbé Sestac, cette source lumineuse qui irradiera sa clarté tout au long des années à venir. Mais déjà les fruits que goûte l'abbé sont bien ceux d'une authentique expérience spirituelle. Nous allons en repérer quelques-uns dans le récit qu'il nous a laissé. D'abord, la joie. Il dit « mille et mille fois, pas une, hein, mais mille et mille fois, plus heureux et plus riche, dit-il à Marie, que si vous m'aviez promis tout l'or de la terre. » Il n'est pas plus riche qu'avant, en liards ou en francs. Ainsi, le Père Sestac est introduit dans la béatitude promise aux pauvres en vue du royaume, et il en connaît déjà la joie, mille et mille fois plus heureux. Autre fruit, l'espérance et la consolation. « Je repris, dit-il, mes travaux ordinaires, » dont il revient à Bayonne, « et il reprit ses travaux ordinaires, mais dans une nouvelle vie de bonheur et d'espérance. C'est sûr, il n'aura pas plus d'argent dans son porte-monnaie pour acheter le pain le lendemain. Mais quelque chose d'autre a germé dans son cœur. Enfin, la reconnaissance. Je revins donc de votre béni sanctuaire, il renouvelle, plein de bonheur, chacun de mes pas éclaté en action de grâce. On dirait presque un magnificat. Joie, espérance, reconnaissance. Mais la grâce de Buglose laissera une empreinte indélébile dans la mémoire et le cœur de l'abbé Sestac. Reconnaissant, il marquera souvent, autant qu'il le pourra, l'anniversaire de ce 19 juillet par une visite au sanctuaire. Et on peut en retrouver la trace dans sa correspondance. Maintes fois aussi, il ira à Buglose chercher lumière et force. Il écrit le 20 juillet 1844, le 20 juillet, donc un lendemain d'un 19. Me voici de retour de Notre-Dame de Buglose. Mon pèlerinage a été heureux et béni. On ne va jamais visiter cette bonne mère sans en revenir avec une nouvelle provision de force et de grâce. Nous lisons aussi dans une lettre de 1845, janvier 1845, à une religieuse. « Me voici à Notre-Dame de Buglose. Je suis venue la consulter sur une chose dans laquelle j'avais besoin de lumière particulière. Je me retire content, parce que cette bonne et tendre mère m'a fait connaître la route que je dois suivre. » Et d'ailleurs, en reconnaissance même de cette grâce, le père Sestac établira à Buglose une communauté de servantes de Marie destinée à accueillir les pèlerins qui viendraient rendre hommage à Notre-Dame de Buglose. Alors, il est temps quand même que je conclue. Alors, pour conclure cette évocation des pèlerinages du père Sestac, nous allons l'écouter encore comme s'il s'adressait à nous aujourd'hui. « Nous sommes, dit-il, comme des voyageurs. » Et vous autres qui avez pris la route aujourd'hui, nous savons bien ce que c'est que le voyage. « Nous sommes comme des voyageurs ou comme des pèlerins. » C'est à peu près pareil. « De même que le voyageur se repose de temps en temps et se rafraîchit en se désaltérant à une source pure, ainsi nous, dans ce voyage qu'on appelle la vie, faisons descendre du cœur maternel de la très sainte Vierge des ruisseaux de grâce et de force qui nous rendront le voyage doux et aimable et nous ferons marcher avec une nouvelle ardeur. » Et je souhaite que ces lignes deviennent vraies pour chacun de nous.
Le père Sestac, pèlerin, vous venez de suivre une conférence de sœur Jacqueline Bordenave, servante de Marie, conférence enregistrée à Anglet au couvent des Bernardines en la fête de Saint-Bernard le 20 août 2005.